VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Zimbabwe, l'état-major de l'armée zimbabwéenne a officiellement annoncé ce lundi la fin du coup de force qui a conduit le mois dernier à la fin des 37 ans du règne sans partage exercé par l'ancien président Robert Mugabe sur le pays. Les forces de défense et de sécurité prononcent la fin de l'opération « Restaurer la légalité », a déclaré le commandant de l'armée de terre, le général Philippe Valerio Sibanda, lors d'une conférence de presse. « La normalité règne à nouveau dans notre pays », a-t-il souligné. Les militaires sont intervenus dans la nuit du 14 au 15 novembre à Harare, la capitale, pour dénoncer le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa. Leur objectif, empêcher la première dame, Grace Mugabe, de succéder à son mari, car c'est elle qui avait obtenu le départ du vice-président, considéré jusque-là comme le dauphin du chef de l'État Robert Mugabe. Placé en résidence surveillée, Robert Mugabe, 93 ans, a démissionné une semaine plus tard. Emmerson Mnangagwa a été par la suite investi président par intérim jusqu'aux élections prévues à la mi-2018. Au Gabon, les forces de sécurité ont procédé dimanche à plusieurs dizaines d'arrestations à Libreville. C'est au lendemain d'une attaque à l'arme blanche qui a blessé deux Danois. Le Conseil islamique du Gabon déplore cette attaque. Idriss Fall.
Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon a condamné l'attaque hier au couteau perpétré contre deux Danois. L'imam Hosseini Ossa a rappelé que l'islam enjoint à tout musulman de respecter la vie. Il a demandé au gouvernement de réprimer l'auteur ou les auteurs de cette agression. Hier, la police et la gendarmerie ont bouclé le village artisanal, un marché pour touristes à Libreville. Tous les commerçants, presque tous originaires d'Afrique de l'Ouest, ont été conduits à la police pour interrogatoire. La veille, un Nigérien criant « Allahu Akbar » a poignardé deux citoyens du Danemark. L'assaillant, âgé de 53 ans, vivait au Gabon depuis 19 ans. Selon les officiels gabonais, il dit avoir agi en représailles aux attaques des États-Unis contre les musulmans et à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais jusqu'à hier, les autorités gabonaises n'avait pas encore utilisé publiquement le qualificatif d'attaque terroriste ou djihadiste.
En RDC, un civil a été tué et un autre blessé dimanche lors d'une attaque de présumés rebelles ougandais des ADF dans l'est du pays. Le civil a été égorgé par les assaillants qui ont aussi tué un militaire, a indiqué un membre d'une organisation de jeunesse citée par l'AFP qui dit avoir été témoin de l'incident. Cette incursion des ADF en territoire congolais arrive 10 jours après la pire attaque contre des casques bleus en RDC attribuée au groupe ADF. RDC toujours, polémique à Kinshasa autour de la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête du parti d'opposition UDPS. Le Premier ministre Bruno Tshibala, secrétaire général adjoint du vivant de Tshisekedi, a organisé un congrès au terme duquel il a été désigné président du parti. Ce que conteste bien entendu la direction du parti, actuellement tenue par le secrétaire général Jean-Marc Kaboun. Cette affaire relance à un an des élections la problématique liée au dédoublement des partis politiques dans le pays. Au reportage de Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
À ma double qualité de Premier ministre, chef du gouvernement de la RDC et de nouveau président de l'UDPS, je m'engage à œuvrer pour que des obsèques dignes de son rang soient organisées en l'honneur du regretté Tshisekedi Wa Mulumba. La nouvelle direction politique de l'UDPS va se réunir dans les heures qui viennent pour se mettre rapidement au travail en vue de traduire en acte les résolutions du Congrès. Il faut entamer et amplifier l'action de la réunification et de rassemblement en organisant des contacts directs avec tous ceux qui s'étaient éloignés du parti pour diverses raisons, pour leur demander de revenir à la maison.
Ces mots prononcés par Bruno Tshibala quelques minutes après son élection la semaine dernière comme président de l'UDPS ont relancé la polémique liée à la succession de feu Étienne Tshisekedi. L'actuel premier ministre de la RDC, qui jusqu'à la mort d'Étienne Tshisekedi était le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a convoqué un congrès qu'il a par la suite investi président du parti. Il a même promis dans son discours programme de réconcilier les filles et fils de l'UDPS et de récupérer le siège du parti à Limété. En réaction, Jean-Marc Kabound affirme que l'UNEPS, la vraie, c'est celle qu'il dirige en tant que secrétaire général nommé par Étienne Tshisekedi, fonction qu'il exerce encore depuis la mort de ce dernier.
Tshibala aujourd'hui est plus kabiliste que les anciens kabilistes. Tout le monde sait que Tshibala a fait allégeance à M. Kabila et il a décidé en âme et conscience de cheminer avec lui. On n'a pas du temps à perdre pour l'inviter dans un congrès de l'UDPS parce que nous n'inviterons personne de cette majorité. Mais nous avons un parti dénommé UDPS Tshisekedi. Il y a un parti politique dénommé UDPS Kibasa. Ces deux partis au ministère, nous sommes enregistrés sous ce nom, UDPS Tshisekedi, autant que c'est UDPS Tshibala. Mais c'est pas notre problème, nous n'avons pas peur de ça. Parce que nous savons que l'UDPS Tshisekedi restera égal à lui-même. Nous estimons que nous avons le peuple derrière nous, nous avons une forte base qui sait ce que veut dire l'UDPS.
Ce dossier relance le débat sur le dédoublement des partis politiques en République démocratique du Congo. De nombreux partis, en effet, ont la même dénomination. Dans la plupart des cas, l'un des camps appartient à la majorité, l'autre à l'opposition. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RCA, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a ordonné le règlement des 2 mois d'arriéré de salaire de novembre et décembre 2013. Conséquence des négociations satisfaisantes avec le Fonds monétaire international, le FMI, dit-il. Vendredi dernier, le FMI a annoncé avoir approuvé le versement d'une troisième tranche d'un prêt de 40 millions de dollars à la RCA, ainsi que l'augmentation de son programme d'aide à ce pays.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Cameroun, il y aura désormais un seul manuel scolaire inscrit au programme pour chaque matière, selon un décret du Premier ministre signé récemment. Éditeurs, enseignants, libraires et responsables d'établissements scolaires s'en réjouissent. C'est le cas de Vincent Paul Lélé, responsable chez les éditions Clés à Yaoundé.
Tel que ça marchait jusqu'à présent, vous verrez des distributeurs qui deviennent éditeurs, attirés certainement par l'appât du gain facile, parce qu'on a quelques personnes qu'on connaît dans la commission, qui, par des subterfuges, vont faire passer des ouvrages à la commission. Vous verrez des imprimeurs devenir éditeurs. Vous verrez des enseignants qui ont produit des ouvrages, qui s'auto-éditent et qui deviennent éditeurs. Vous verrez des inspecteurs pédagogiques qui sont parfois des auteurs et qui deviennent éditeurs. Bref, on se retrouve dans une sorte d'Eldorado où on retrouve tous les chasseurs de primes. Il y aura certainement un tamis qui va s'opérer. On pourrait voir émerger véritablement des gens qui se disent éditeurs.
Vincent Paul Lélé à Yaoundé au Cameroun. Afrique du Sud, les délégués du Congrès national africain, l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis 1994, ont voté toute la nuit de dimanche à lundi pour élire le successeur de leur très contesté président Jacob Zuma. Un scrutin vital pour l'avenir du pays. C'est l'épilogue d'une campagne âpre et serrée qui oppose l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa à la candidate soutenue par le président Zuma, son ancienne épouse et ex-patron de l'Union africaine, Kosazana Dlamini Zuma. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit examiner aujourd'hui un projet de résolution visant à rejeter la décision américaine de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Cette décision suscite encore des vagues dans le monde arabo-musulman. Jean-Roger Bion.
Le texte introduit par l'Égypte affirme que toute décision ou action visant à altérer le caractère, le statut ou la composition démographique de Jérusalem n'a pas de force légale, est nulle et non avenue et doit être révoquée. Ce projet de résolution doit être mis au vote aujourd'hui, mais les États-Unis ont le droit de veto. De son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan dit espérer que son pays ouvrira bientôt une ambassade à Jérusalem-Est, capitale d'un État palestinien. En tant que président en exercice de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, il a appelé les pays musulmans à reconnaître Jérusalem-Est comme la capitale palestinienne. La décision américaine a provoqué des manifestations de colère en Cisjordanie occupée et dans d'autres pays du Proche-Orient. En Indonésie, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Jakarta pour dénoncer cette décision. L'Indonésie, pays musulman le plus peuplé au monde, est un fervent soutien de la cause palestinienne.
Et pour terminer, l'électricité est revenue à l'aéroport d'Atlanta, ici aux États-Unis, le plus important aéroport du monde, où une énorme panne a affecté des centaines de vols et des milliers de passagers. C'est ce qu'ont annoncé les autorités de l'aéroport. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.